Bien, bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez? Bon, ben c'est bien. Donc c'est moi qui ai la mission ce soir d'ouvrir cette troisième conférence de carême, parce que notre évêque est absent. Voilà. Parce qu'un évêque est un chrétien, et que, comme tout chrétien, il doit de temps en temps réviser sa vie, faire de la révision de vie. Voilà. Et donc, il va retrouver d'autres frères évêques à Nevers ce soir pour une journée de révision de vie ensemble de leur mission. Voilà. Donc, on a une pensée pour lui. Donc, voilà. Alors, évidemment, à partir de ce moment-là, la mission me revient. Bon, d'ouvrir la séance. On est donc dans cette troisième conférence. Nous avons donc eu la présentation les dimanches précédents du père Pierre Tournant et de madame Suzanne Leroy, deux figures bien différentes l'une de l'autre. L'une, un prêtre, quelqu'un qui, à partir de son baptême et de sa confirmation, a été appelé au ministère de l'ordre et à être prêtre, et qui a manifesté sa passion apostolique, sa volonté d'être tout à tous pour amener tous au Christ. Et puis, la fois dernière, on a entendu une conférence sur madame Suzanne Leroy, une laïque, qui, elle aussi, à sa manière, à partir de son baptême et de sa confirmation, a témoigné de sa foi, d'une charité inlassable et d'une espérance, malgré toutes les épreuves difficiles qui ont marqué sa vie. Voilà. Et aujourd'hui, bien, c'est Serge Carouche que Henri Petitpas va nous présenter. Serge, qui à partir de sa mission de baptisé confirmé, a été appelé au ministère de l'ordre, à travers du diaconat, mais qui surtout, enfin, je ne vais pas brûler ce que Henri va dire, mais Serge était issu du monde ouvrier et donc, une grande part de sa passion, je crois, telle que je l'ai perçue, bien c'était que l'Église se fasse proche de ce monde dont souvent l'Église est loin. Voilà, bien, je laisse la parole à Henri.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce que je vais vous partager sera nécessairement un petit peu différent des prédécesseurs, pour plusieurs raisons. D'abord, je n'ai connu Serge qu'une bonne quinzaine d'années. Et puis, quand j'ai été déchargé de la responsabilité du diaconat, j'ai détruit tous mes papiers, sauf ceux qui devaient être remis à l'évêché. Et heureusement, parce que j'ai retrouvé dans ces documents ce que j'avais dû écrire pour son ordination. Alors donc, tout ce que je vais dire, je le tiens beaucoup de René, son épouse, que je remercie. Elle m'a rafraîchi la mémoire. Joël vient d'évoquer la première conférence du Père Tournant. Vous allez retrouver avec Serge un contexte de vie semblable, tant pour l'évolution de la société que pour le souci d'annoncer l'Évangile qui habitait un certain nombre de chrétiens, de prêtres, de laïcs, marqués, je dirais presque formatés par l'action catholique. Malgré le décalage d'âge entre deux, Pierre et Serge sont des hommes, des chrétiens de la même génération, habités par le même attachement à la personne du Christ et le désir de témoigner de la bonne nouvelle aux hommes tels qu'ils étaient, dans la société telle qu'elle était. Et tout ce bouillonnement, toute cette vie, éclairée, dynamisée par Vatican II. Alors mon intervention va comprendre quatre parties inégales. Je vais faire une présentation biographique de Serge, avec certainement des oublis. Et puis j'insisterai sur la restauration du diaconat à Vatican II et sa mise en œuvre dans le diocèse. Et puis, nous terminerons, Serge ordonné diacre, la mission qui lui a été confiée. Qui est Serge Carouge? Il est né à Anglure le 31 mai 1933, troisième de 9 enfants. Ses parents étaient de petits agriculteurs. Il fait son école primaire à Anglure jusqu'au certificat d'études, à 14 ans. Et il travaille à la ferme en y ajoutant des petits boulots. Il peut faire son service militaire, il part faire son service militaire au Maroc pendant 2 ans. Au retour du Maroc, en famille, il crée une entreprise de battage. Sa rencontre avec René va orienter autrement sa vie. Il se marie le 4 juillet 1959, à Angluzel, je suppose, où habitaient les parents de René. Ils auront 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. La naissance des enfants les incitera à construire à Pleurs pour que les enfants puissent aller au lycée de Cézanne et revenir tous les soirs à la maison. Au plan professionnel, un double choix s'offre pour le jeune couple, soit reprendre une petite ferme, soit pour Serge devenir ouvrier agricole. Et c'est cette décision qui l'emporte. Serge travaillera comme ouvrier agricole dans une ferme à Fresnay du 1er janvier 1960 à 1972. Il y avait alors 13 familles d'ouvriers agricoles à Fresnay. Il nous faut essayer de nous représenter en quoi consistait le travail d'un ouvrier agricole à cette époque, alors que la Champagne était en pleine transformation. Pour ceux qui ne sont pas de la Champagne, c'est là qu'on a arraché tous les sapins pour transformer les terres en terres céréalières, betteravières, etc. En 1972, licencié du travail, Serge entre à l'usine de déshydratation d'Anglure avec le régime des 3-8. Bon, tout le monde sait ce que c'est que les 3-8. Il a eu un moment le projet d'être responsable du silo de Pleurs pour se rapprocher de la famille, mais des lettres d'opposition de la part de certains agriculteurs n'ont pas permis de concrétiser le projet. En effet, Serge était syndiqué CFDT, le seul de son entreprise, et il était classé de gauche. Il reste donc à la DSI d'Anglure pour la quitter en 1990, parce que trop fatigué par ce système des 3-8. Et la foi chrétienne, l'Église, dans tout cela. Serge, bien qu'enfant de cœur, n'a été que 6 mois au catéchisme. La préparation au mariage a fait beaucoup bouger de choses. En effet, René était responsable fédéral de la JACF, croyante, militante, et le père Braconnier, alors aumônier de la JACF, a aidé Serge à enrichir ses connaissances religieuses, ou plutôt lui a fait faire, comme on dirait maintenant, un chemin catéchuménal. À partir de là, Serge décide d'aller à la messe tous les dimanches, ce à quoi il restera fidèle, sauf bien sûr quand le travail à l'usine l'en empêchera. Dans le cadre du CMR, chrétien en monde rural, Serge et René mettent en route des équipes jeunes foyers. En 1961, 2 ans après leur mariage, ils deviennent responsables de la branche ouvrière du CMR. En effet, le CMR était divisé, réparti en plusieurs branches, les agriculteurs, les techniciens, les artisans commerçants, les ouvriers agricoles. Vous doutez bien que tout ce monde-là, quand il partage sa vie et réfléchit à l'Évangile, n'a pas forcément la même approche. En 1967, René rejoint l'équipe nationale du CMRO. Serge lui succède en 1970. Cet engagement pose question à ses collègues de travail. Tu perds de l'argent à aller à tes réunions. On peut imaginer un peu le dialogue qui peut suivre, l'occasion peut-être d'essayer de faire passer un petit message à ses collègues. Et je vais l'illustrer par un fait antérieur, quand il était ouvrier agricole. Ce fait a été partagé en équipe CMRO et le père Benoît Gandon, qui lui a gardé des archives, me l'a transmis en pensant que ça pourrait me rendre service. Il n'est pas là, mais je l'en remercie. Comment Serge, comme d'autres, s'efforçait-il de vivre sa foi dans ce qui faisait sa vie d'ouvrier agricole? D'abord en étant attentif aux conditions de travail et à leurs répercussions pour les hommes. Je cite, « C'est l'arrachage des betteraves. Il pleut depuis plusieurs jours. Les tracteurs n'ont pas de cabine. On travaille dans la boue. Les hommes sont trempés. » Serge va aller voir le patron pour protester contre les conditions de travail et lui demander de mettre des cabines sur les tracteurs pour que les chauffeurs soient au moins à l'abri. Le patron s'est exécuté alors que son propre syndicat prônait la grève des achats de matériel agricole. Un chauffeur dira à Serge, « Depuis que tu as râlé, ça va quand même mieux. » Le patron lui-même dira un jour à Serge qu'il reconnaissait en lui un interlocuteur valable avec lequel il fallait compter. Si le point de départ de ce fait était une réaction d'indignation, Serge aperçut aussi que ses collègues portaient une part de responsabilité dans la situation. Par leur passivité, leur manque d'initiative, leur fatalisme. Et il ne les jugeait pas en disant cela. La réaction des gars, c'est « on s'écrase, c'est comme cela. Il faut mieux garder son boulot et ne pas avoir d'ennui. » D'où le souci pour Serge de les aider à se prendre en charge, à s'exprimer, à prendre leurs responsabilités. Et il leur disait « ben écoute, va en parler au patron. » Et puis si le gars disait « ah oui, mais ça serait bien que tu viennes avec moi, bon, ben je vais aller avec toi. » Mais il laissait le gars parler. Partageant ce fait de vie en équipe CMRO, la réflexion va être éclairée par l'Évangile. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, ce peut attirer des ennuis, mais n'est-ce pas essayer de vivre l'Évangile ? Nul ne peut servir deux maîtres. Et ailleurs, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ces citations de l'Évangile sont des citations qui ont été évoquées dans cette rencontre d'équipe CMRO. Comment travailler à la réalisation du désir de Dieu pour les hommes, sinon en veillant à ce que les hommes soient debout, libres, responsables? Il y aurait probablement beaucoup de situations semblables à citer dans la vie de Serge. C'est ce qui fait qu'en 1981, il a été interpellé, invité à réfléchir à la possibilité du diaconat. Serge et René se sont investis longtemps aussi dans la préparation au mariage, autre occasion de rencontrer des jeunes, le plus souvent assez loin de l'Église. Alors je vais prendre ma deuxième partie. La restauration du diaconat comme ministère permanent. Alors là, ça va être un petit peu d'histoire. Bon, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, mais c'est déjà... Ça remonte loin, 62. Et en même temps, ça va expliquer pourquoi il y a des diacres dans le diocèse. Bon, la vie du monde était aussi bouleversée à cette époque-là que la nôtre. Et voilà que Jean XXIII, contre toute attente, successeur de Pie XII à 77 ans, annonce la convocation d'un concile le 25 janvier 1959. Le concile précédent avait eu lieu en 1869-1870. Je cite pourquoi on l'a convoqué. « Pour lutter contre les erreurs du temps et adapter la législation ecclésiastique qui datait du précédent concile, lequel remonte à 1545-1563, auquel l'évêque de Châlons de l'époque a participé. Vatican II débute le 11 octobre 1962, sera clôturé par Paul VI le 8 décembre 1965, 2400 évêques y participent, et pour la première fois, des observateurs des autres confessions chrétiennes. Même si sa convocation par Jean XXIII est une surprise, le concile n'arrive pas au hasard. Deux grandes guerres ont bouleversé la première moitié du XXe siècle, avec toutes les questions que cela a pu poser. L'Occident, et notre pays en particulier, est marqué par une évolution dans les rapports entre l'Église et l'État, principalement depuis la Révolution française, la loi de séparation de 1905. Nous ne sommes plus au temps des cathédrales, ni même de la monarchie avec l'alliance du sabre et du goupillon. Ces évolutions, ces bouleversements que rencontre l'Église en Occident ont été accompagnés et précédés par tout un renouveau, un retour aux sources dans l'Église, en particulier dans 5 domaines, la liturgie, la connaissance et l'étude de la Bible, le dialogue avec les frères séparés, l'étude des pères de l'Église, et puis l'émergence des laïcs comme chrétiens à part entière et grâce en partie à l'action catholique. À cela, il faut ajouter l'expansion missionnaire inaugurée au XIXe siècle avec l'existence de nouvelles églises en Afrique, en Asie, en Océanie. Pensez que les premiers évêques autochtones ont été les évêques chinois en 1921 seulement. Si l'Église pouvait être perçue encore comme une forteresse à laquelle il fallait appartenir pour être sauvé, il y avait beaucoup de brèches dans les murs et il manquait beaucoup de carreaux aux fenêtres, d'où les courants d'air. Et Jean XXIII, historien de formation, diplomate de métier, perçoit bien que ça ne peut plus continuer longtemps comme avant. D'où son expression « L'Église a besoin d'une remise à jour ». Non pas tant pour ravaler la façade que pour répondre à sa mission, et là je cite le Concile, d'être le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe, le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Jean XXIII, en convoquant le Concile, songera certainement au besoin d'un renouvellement en profondeur, d'un retour aux sources, pour trouver les moyens de mieux vivre la mission, cette mission de l'Église dans le monde tel qu'il est. Et dans son homélie d'ouverture, le 11 octobre 1962, il emploiera l'expression « une Église servante et pauvre ». Une Église servante et pauvre. Et quand le grand théologien allemand Karl Barth demandera au père Congar: « À votre avis, quelle est la grande idée du Concile ?» Le père Congar répondra « Le service. » Excusez ce survol rapide et sommaire pour aborder les événements et Vatican II, mais c'est dans ce contexte qu'ont vécu des chrétiens du diocèse. Pensez à ce que Joël nous a rappelé de Pierre Tournant. Bon, Madame Leroy, ça se vivait autrement, mais on se soucie d'annoncer l'Évangile d'une Église proche des hommes, disponible, faisant un bout de chemin avec eux. Alors, la restauration du diaconat Vatican II, bon, là aussi, je vais être sommaire, une Église servante et pauvre. L'idée s'est ancrée peu à peu. Mais c'est, sans en avoir l'air, une sorte de révolution. Une conversion à laquelle l'Église est appelée. Même si elle l'est, elle n'est pas d'abord une institution parmi d'autres, et la plus vieille du monde, enfin, ou presque la plus vieille du monde, avec 2000 ans d'existence, l'Église, c'est d'abord un mystère. Elle est la manifestation du mystère de Dieu, Père, Fils, Esprit au milieu des hommes. Et donc, avant de parler de l'organisation de l'Église, les évêques vont se pencher, vont regarder, contempler le mystère de Dieu. Est-ce que Dieu veut vivre avec les hommes? Partir du mystère de Dieu, ce n'est pas seulement parler de Dieu, créateur et tout-puissant, comme l'étaient nos catéchismes, si vous vous en souvenez, ça commençait comme ça. Un Dieu juge des hommes, c'est souvent l'image que les gens en ont gardée, et dans notre région en particulier, marquée par le jansénisme. Parler du mystère de Dieu, c'est révéler son amour infini manifesté en Jésus-Christ jusqu'à l'extrême. Alors ça, l'Église l'a toujours dit. Mais on sentait bien que dans sa manière d'être, sa manière de faire, il fallait que ce soit d'abord ça qui apparaisse. faire grandir dans le cœur de chacun cet amour pour qu'il s'efforce de vivre à la manière de Jésus. Du coup, ce qui est premier pour tous, pour tous les baptisés, c'est pas simplement d'appartenir à l'Église, c'est le don de la foi qui nous fait tous frères. La constitution Lumen Gentium le manifestera dans son élaboration en faisant du chapitre du peuple de Dieu la suite de cette contemplation du mystère de Dieu et mettant seulement, enfin, si je peux dire seulement, au chapitre 3, la constitution hiérarchique de l'Église et spécialement l'épiscopat. Donc ça veut dire, et le père évêque l'a rappelé les deux fois précédentes, le baptême restera toujours premier pour tous les baptisés. Et tous les baptisés sont invités à être serviteurs avec le Christ du projet d'amour du Père. Alors comment s'est faite cette restauration? Elle a été préparée de plusieurs manières, pour plusieurs raisons, et les théologiens français y sont pour beaucoup. Dans les camps de prisonniers, bon, il y avait des prêtres qui étaient prisonniers, mais il y avait aussi beaucoup d'autres hommes, et les prêtres, qui étaient essentiellement l'homme de la messe, se retrouvaient à célébrer sans participants. Les gens ne pratiquant pas déjà chez eux, ils n'allaient pas à la messe parce qu'ils étaient prisonniers, sauf si ça leur permettait d'avoir une petite sortie. C'est quelquefois comme ça à la prison aussi. Ça fait une petite sortie supplémentaire. Bon. Donc, c'était une question. Ben, si on est prêtre, si prêtre, ça consiste à dire la messe seulement, je caricature en disant seulement, s'il n'y a personne pour y venir, il faut trouver autre chose. Donc, ça a joué. Et puis, dans les pays qui avaient été marqués par le communisme, où il restait des petites communautés, sans prêtres souvent. Et puis, on a eu en France un petit livre écrit par deux prêtres parisiens qui a fait beaucoup de bruit, ou du moins qui a secoué beaucoup de choses, « France, pays de mission ». On se pensait à la fille aînée de l'Église, « France, pays de mission ». Notre pays n'était plus un pays de chrétienté, si toutefois il l'a été. Et on espérait beaucoup du dynamisme de l'action catholique, tout ce qui se faisait en monde rural, en monde ouvrier, dans les milieux indépendants, on espérait par là un renouveau, ça a été un renouveau, mais ça n'a pas rempli beaucoup plus les églises. Il y avait d'autres raisons plus théologiques. Qu'est-ce que cet ordre que le diaconat, qu'on recevait parfois quelques semaines seulement, pour quelques semaines? Si mes souvenirs sont bons, François Carrière a été ordonné prêtre le samedi saint, il est ordonné diacre le samedi d'avant, à Rome. C'est-à-dire qu'il a eu le temps, dans la semaine, de célébrer une fois en tant que diacre. Voilà, on est ordonné diacre, mais l'essentiel, c'était d'être ordonné prêtre. Or, il y avait tout un renouveau, je vous l'ai évoqué, par les pères de l'Église, la parole de Dieu, les lettres de Paul qui parlent des diacres. Si ce ministère est constitutif du ministère ordonné, effectivement, tout... on ne peut être prêtre que si on est ordonné diacre, et évêque que si on est ordonné diacre. On peut être ordonné prêtre, mais on peut être ordonné, je pense, diacre, évêque. Ne fallait-il pas donner à ce ministère toute sa dimension et manifester une image employée par saint Irénée, mais que l'Église n'a pas trop gardée? En contemplant la Trinité, Irénée disait que le Fils et l'Esprit sont les deux mains du Père. Les prêtres et les diacres ne sont-ils pas les deux mains de l'évêque, successeurs des apôtres, représentants du Christ pour son peuple, pour le peuple qui lui est confié? Et vous vous rappelez, ceux qui ont vu l'ordination du Père Louis, pendant la prière d'ordination, qu'est-ce qu'on met sur le dos de l'évêque? L'évangéliaire. On est ordonné prêtre et ordonné évêque pour annoncer l'évangile. C'est d'abord ça qui est premier, ça sera répété aussi pour les prêtres. Leur première mission, c'est l'annonce de l'Évangile. Bien sûr, à tous. Et donc, en gardant l'image des mains, chacun sait que chaque main a sa spécificité et les deux ne sont pas interchangeables. Autre raison encore théologique qui a fait que ça a été restauré, s'il n'y a pas d'église sans le ministère ordonné, et qu'à cause de l'étendue des territoires dans les pays dits de mission, le ministère de l'évêque et des prêtres était peu présent, pourquoi ne pas ordonner diacres, les catéchistes qui font fonction de chefs de communauté? Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'en Afrique, il y a très peu de diacres, il y a des pays qui n'ont pas de diacres du tout, et des pays, entre guillemets, on aurait dit autrefois de mission, et alors que chez nous, eh bien, le diaconat, on va y revenir, a pris de l'importance. Donc le Concile adopte la restauration du diaconat en votant le Lumen Gentium, la constitution conciliaire sur l'Église. Alors je cite là le numéro 29 de Lumen Gentium. Au degré inférieur, on dirait au degré suivant de la hiérarchie, donc évêque, prêtre, diacre, se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Et cette expression, elle remonte à la didascalie des apôtres au IIIe siècle. C'est pas une idée de Vatican II. Les diacres sont ordonnés non pas en vue du sacerdoce, mais du service. La grâce sacramentelle, en effet, je cite, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie, ce qui veut dire le service, de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Alors, le texte précise d'autres petites choses en citant des pères de l'Église. Et puis viennent des nouveautés, entre guillemets. Le diaconat pourra, dans l'avenir, être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. C'est-à-dire, on peut rester diacre toute sa vie. Alors que, avant, si on était ordonné diacre, c'était en vue d'être prêtre. Bon, il y a bien quelques exceptions rarissimes, mais c'était pas dans l'ordre, c'était pas prévu au départ. Et la décision de restaurer cet ordre permanent appartient aux conférences épiscopales. Autre nouveauté, le texte ajoute, si le pontife romain y consent, ce diaconat pourra être confié à des hommes mûrs, même mariés, ainsi qu'à des jeunes gens aptes à cet office, mais pour lesquels la loi du célibat doit demeurer ferme. Autrement dit, voilà, le diaconat, on reprend la pratique de l'Église orientale. Quand quelqu'un dit « je veux me mettre au service » ou « je me sens appelé à être au service de l'Évangile, de l'Église », on lui dit « est-ce que c'est comme diacre ou est-ce que c'est comme prêtre ?» Et si il dit « c'est diacre », eh ben, on va lui dire « est-ce que c'est dans le mariage ?» C'est avec le mariage ou est-ce que c'est dans le célibat? S'il est dans le célibat, il reste célibataire. Si c'est dans le mariage, on lui dit, tu te maries déjà, et puis on t'ordonnera diacre quand il y aura eu quelques années de mariage qui seront passées. Et c'est le même chemin pour les prêtres dans l'Église orientale. Quand quelqu'un pense être prêtre, s'il a l'intention de se marier, on lui dit, tu te maries. Et puis on leur donne prêtre après. Parce que ce qui est premier, c'est le sacrement. C'est pas l'état de vie. Lumen Gentium est voté à la quasi-unanimité le 21 novembre 1964. Alors dans l'Église de France, comment ça va se passer? Les évêques venaient de vivre le concile qui s'est terminé le 8 décembre 1965. À l'assemblée plénière de 1966, avec tous les ans, les évêques se retrouvent à Lourdes, ils décident la restauration du diaconat comme ordre permanent. Voilà, les évêques disent, le diaconat sera un ordre permanent dans notre pays. En 1967, l'année suivante, lors de leur assemblée, ils font toute une réflexion sur les orientations missionnaires pour l'Église de France. Et ils insistent particulièrement pour que les chrétiens soient attentifs à trois catégories de personnes de la société française. Bon, à tous, bien sûr, mais être particulièrement attentif à trois catégories de personnes. les pauvres de toutes sortes. Pauvreté matérielle, physique, morale. Les gens qui ont des difficultés au travail, enfin qui n'ont pas de travail. Tout ce qui produit un peu cette forme de pauvreté. Les incroyants. Parce que on percevait bien que même si beaucoup étaient, 80 et quelques pourcents étaient baptisés, il y avait beaucoup d'incroyants, ou des gens qui se disaient non-croyants. Et puis, les décideurs, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir et qui préparent la société de demain. Est-ce que ceux qui font évoluer la société, ceux qui dirigent l'économie, les finances, est-ce que ceux-là le font aussi avec un souci de l'Évangile. Donc voilà les orientations missionnaires de l'Église de France, on les a pas supprimées depuis. Et en 1968, les évêques reparlent du diaconat en demandant que les diacres contribuent à la réalisation des orientations missionnaires, c'est-à-dire des diacres au service concret des personnes marquées par la pauvreté, les pauvretés de toutes sortes, vivant dans l'incroyance ou en responsabilité, en vue de stimuler les communautés chrétiennes à garder ce souci de tous. Donc, si on ordonne des diacres, ce n'est pas d'abord parce que le nombre des prêtres diminue. Le nombre des prêtres diminuait depuis 1938. Ni parce que certains hommes n'ont pas pu s'orienter vers le presbytérat à cause de la loi du célibat. Alors, ils n'ont pas pu être prêtres, mais on va en faire des diacres. Non, il n'est pas question de ça. Ni mini-prêtres, ni super-enfants de cœur. Des diacres pour la mission, pour le service des hommes. C'est pour aider toute l'Église à être en état de service, à la manière du Christ serviteur qui a lavé les pieds de ses disciples, et cela a commencé par les évêques et les prêtres qui ont se rappelé toujours qu'ils sont et restent diacres. Jésus a été le bon pasteur parce que toute sa vie, il s'est comporté en serviteur de Dieu. L'esprit de service est antérieur à la charge confiée. De cette vision du diaconat pour la France, ça sera différent pour d'autres pays, va naître la préférence pour la pratique de l'interpellation. C'est-à-dire, compte tenu des besoins de la mission, regardez, en repérant aussi ce que vivent les communautés, regardez la société, quels sont les hommes qui vivent déjà cette dimension missionnaire, et les inviter à se poser la question d'un éventuel appel au diaconat, tout en respectant, bien sûr, leur liberté. Alors, cette orientation des évêques, que d'autres épiscopats, d'ailleurs, ont repris textuellement, seront confirmés par une note de la commission du clergé et des séminaires de 1970. Alors j'ai pas retrouvé la note parce que je n'ai pas eu assez de temps, mais nous appelons des hommes de préférence en état de mission. On n'appelle pas encore des hommes parce qu'on a des besoins de personnel, c'est en vue de la mission. Mais ça serait mieux que je vous fasse la citation exacte. Il faut que je la retrouve. Et puis, tout cela sera confirmé à l'Assemblée plénière de 1995 et 1996, et comme j'étais à ce moment-là responsable du Comité national du diaconat, j'ai eu la grâce de participer à ces deux assemblées où il y a eu débat, oui, déjà, parce que devant le nombre croissant du nombre des prêtres, la diminution du nombre croissant des prêtres, certains évêques disaient « c'est tout ». Plutôt que ce soit des laïcs qui président des obsèques, il faut peut-être mieux que ce soit des diacres. Et l'Assemblée a voté quand même en majorité en disant non, on garde les orientations du diaconat. Une image va bientôt illustrer l'être et le ministère des diacres. Alors ça, c'est quand, mais je vais y revenir après pour le diocèse, c'est quand on essayait d'expliquer ce que c'est que le diaconat. C'était pas facile puisque ça faisait des siècles que ça n'existait pas. Une image donc va illustrer, on disait, le diacre c'est l'homme du seuil de l'Église. C'est-à-dire, c'est celui qui vient de la place de la ville ou du village, parce que c'est là qu'il vit, c'est là qu'il travaille, et qui va, par son témoignage, par son écoute de ses frères, ses collègues, au moins apporter ce qui fait leur vie jusqu'au cœur de l'Église, le lieu de la parole et de l'Eucharistie. Et puis il est aussi celui qui part du cœur de l'Église, du sanctuaire, pour rejoindre ses frères qui sont sur la place, pour vivre avec eux et leur révéler tout ce qui, dans leur vie, même s'ils ne le connaissent pas, correspond au désir de Dieu. Alors bien sûr, cette image vaut pour tous les chrétiens. Hein, s'il y a une différence, c'est que le diacre, lui, est ordonné pour cela. C'est la charge que l'évêque lui confie. C'est-à-dire que les laïcs peuvent, on l'a entendu avec Madame Leroy, peuvent avoir une vie de service et une vie très diaconale aussi, en fin de compte. Bon, le diacre, c'est un homme public. Hein, il est ordonné pour cela. Donc, s'il est ordonné pour cela, ça veut dire qu'il a à le vivre. La mise en œuvre du diaconat dans le diocèse, c'est ma troisième partie. La charge m'en a été confiée en 1973. Je me rappellerai toujours, on peut se détendre un peu, quand le père Bardone m'a appelé en disant « Ben voilà, maintenant tu vas être responsable du diaconat », je lui ai dit « Mais c'est quoi le diaconat ?» Il m'a dit « Tu verras bien ». Voilà. Il n'avait pas été au concile. « Tu verras bien ». Alors effectivement, comme tous les prêtres des diocèses de France à qui l'évêque avait confié la mission du diaconat, il nous a fallu à la fois tout recevoir de ce que l'Église nous donnait par le concile et nos évêques, et à la fois tout inventer. On ne devient pas diacre du jour au lendemain. Et lors de l'ordination, encore maintenant, enfin et puis même pour les prêtres, non pas les évêques, lors de l'ordination, lorsqu'on présente un candidat à l'évêque, la question que celui-ci pose est la suivante. A-t-il les aptitudes pour ce ministère? Est-ce que vous pensez, ce que vous me demandez, est-ce que vous pensez qu'il va bien le faire, bien le vivre? On ne demande pas s'il a fait beaucoup d'études, s'il est pieux, s'il est... Non. A-t-il les aptitudes pour exercer ce ministère? Bon, ça suppose tout le reste, bien sûr, vous vous en doutez. Alors, suivant les témoignages qui authentifient la raison de présenter le candidat, hein, je veux dire, il y a les chrétiens qui témoignent, et bon, alors bien sûr que c'est quand même à peu près d'avance, mais l'évêque dit, bah d'accord, on va l'ordonner diacre. Dans ce temps de maturation, parce que vraiment c'était un temps de maturation, je pense qu'il y a quatre verbes, nous les responsables du diaconat, qui nous ont particulièrement occupés. D'abord, discerner ce que peut être une vocation diaconale, son originalité. Un diacre n'est pas un prêtre et il ne sera plus un laïc, même si son mode de vie le rapproche plus des laïcs que des prêtres. Il ne déménage pas, il reste là où il est, mais il est diacre. Donc, discerner ce que peut être une vocation diaconale. Discerner aussi ce que peut être le lien particulier à l'évêque. Les diacres sont d'abord collaborateurs du ministère de l'évêque. C'est ce qui fait qu'à l'ordination, seul l'évêque leur impose les mains. Alors que pour les prêtres, tous les prêtres imposent les mains avant la prière d'ordination. Et on retrouve l'image là, hein, les deux mains de l'évêque. Discerner ce que l'appel pouvait produire chez un homme marié, père de famille, qui allait le rester et qui pourrait avoir encore des enfants. Il y a un certain nombre d'enfants en France qui sont nés après l'ordination de leur père diacre. Hein, je vais célébrer le mariage de Jean-Baptiste, qui est né après son papa, Jacques. On a été tous les deux responsables du comité national du diaconat. Jean-Baptiste est né après l'ordination de son père. Discerner la mission qui pourrait être confiée, car si on l'ordonne, c'est d'abord en vue d'une mission. Comment cette mission allait-elle pouvoir se vivre tout en gardant la profession, la vie de famille, d'autres engagements? C'est pas pour rien que dans les ordinations, quand l'évêque donne la lettre de mission, il dit toujours, si le diacre est marié, votre première mission, c'est d'abord la famille, votre famille. Bon. Et je pense à Robert Paul, qui nous a quittés, qui était maire d'Écurie-sur-Caule, quand il a été en chemin vers le diaconat, et on a fait toute une réflexion pour savoir si un maire de commune rurale pouvait être diacre, et on s'est dit, et alors on a consulté d'autres maires qui ont dit, ah bah alors si un boulot qui est diaconal, c'est d'être maire d'une commune, hein, parce qu'on passe son temps à régler des problèmes, à essayer que les gens s'entendent, penser à tout le monde et de veiller à ce que ceux qui sont en difficulté puissent s'en sortir. Donc, vous voyez, il y a eu toute une réflexion. Il y a que deux professions interdites, hormis les professions immorales, pour le diaconat, instituteur dans l'enseignement public et militaire. Hein, parce que c'est Père Bardone qui avait écrit, je cherche son nom, il est décédé, un ministre des armées, qui était de Lyon, qui a répondu, on ne peut pas avoir deux commandements. Hein, si le diacre dépend de l'évêque, ben, il ne peut pas dépendre du général. Bon, c'est tout. Donc discerner, hein, vous voyez, c'était quand même quelque chose, c'était nouveau, il fallait faire les choses. Donner une formation biblique, théologique, liturgique, spirituelle, car le diacre n'est pas un anonyme. Hein, il va proclamer la parole de Dieu, il peut baptiser, célébrer les mariages, animer la prière au nom de l'Église. Et dans ses engagements politiques, syndicaux, il engage un peu l'Église. On sait bien qu'il est de l'Église. Accompagner aussi, autre verbe, hein, je disais quatre verbes, accompagner tout ce que l'interpellation pouvait provoquer dans les candidats lui-même, mais aussi chez son épouse et chez ses enfants. Hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est autant une vocation pour l'épouse que pour le mari. Et moi, par exemple, j'ai toujours tenu à rencontrer les enfants sans leurs parents, hein, avoir une rencontre avec les enfants. Bon, qu'est-ce que vous pensez du projet de l'Église d'interpeller votre papa? Hein, et c'était important. Et les enfants étaient invités à donner leur avis, hein, bien sûr, par écrit. Sensibiliser le diocèse à ce nouveau ministère de façon à ce que ce soit une grâce pour les communautés chrétiennes et un plus pour la mission. Puisque cette ordination, l'appel au diaconat, c'était en vue de rendre l'Église plus missionnaire. Hein, on l'avait dans notre diocèse en 1980 quelque chose, ce slogan, une Église proche, accueillante, accessible. Et voilà, les diacres semblaient tout à fait aptes pour cela. Alors, la manière dont on s'y est pris, eh ben, on a invité les paroisses, ou je ne sais plus, c'était les doyennés à cette époque-là, à regarder un petit peu les réalités de vie, et puis de se dire, ben, dans ces réalités, est-ce qu'il y a déjà des hommes qui vivent cela, et est-ce qu'on peut les interpeller? Hein, c'est comme ça que Jacques Petit, le curé de Pleurs à l'époque, m'a dit très vite, il n'a pas attendu longtemps à répondre à ma lettre, ben oui, moi j'ai quelqu'un, hein, je connaissais Serge, mais c'est comme ça que ça s'est mis en route. Tout cela s'est fait grâce à ce qu'on a appelé après les groupes d'approfondissement de la vocation, ce qui maintenant s'appelle Tibériade. Et puis une groupe d'accompagnement d'une douzaine de personnes pour réfléchir tous les mois avec celui qui est interpellé, tout cela dans le plus grand secret, parce que interpeller, ça ne veut pas dire qu'on sera ordonné. Hein. On peut être interpellé et puis que ça n'aboutisse pas, soit de la part du candidat, enfin celui qu'on appelle candidat, soit de la part de l'Église. C'est le parcours que Serge a vécu lorsqu'il a été interpellé en 81. Il sera ordonné diacre le 20 avril 1986 à Pleurs. Il était le 282e diacre de France. Bon, aujourd'hui, ils sont plus de 2000. D'autres vont suivre pour l'abri. Hein, c'est la partie du diocèse qui a eu le plus de diacres, où ça, la méthode a marché un peu. Claude Vignier en 88, Robert Leroy en 89 et Alain Sourdet en 91. À propos de Claude Vignier, puisqu'il n'est pas là, je peux en parler, il était donc notaire à Cézanne, bien connu. Et il était notaire dans une étude, ils étaient plusieurs, il y avait son frère avec lui, la secrétaire d'accueil que je connaissais m'avait dit, quand des gens viennent pour un divorce, je leur demande toujours, bien sûr, qui est-ce que vous voulez voir ? Qui c'est que vous préférez voir, hein, puisqu'il y a trois, il y avait trois notaires. Et en général, enfin presque la plupart des gens disaient Maître Claude. Et Claude, accueillait les gens, il venait pour divorcer, donc il fallait régler les affaires, mais essayait chaque fois de leur glisser quel bon souvenir vous garderez l'un de l'autre. Quel bon souvenir vous garderez l'un de l'autre. Bon, ça a l'air de rien, cette petite chose-là. Mais vous voyez, bon, et il était diacre, hein, je veux dire, il le faisait avant d'être diacre, mais pour les gens, voilà, et bien, il y a quelque chose de diaconal, et moi, quand je faisais des conférences dans les diocèses de France pour parler du diaconat, pour les prêtres, hein, je disais, combien de prêtres rencontrent dans un mois plusieurs personnes qui sont en train de divorcer pour leur dire, pouvez-vous nous aider à divorcer ? Alors bien sûr, il y a des diacres chrétiens, des notaires chrétiens qui ont le respect des personnes, qui essaient que les choses s'arrangent au mieux, c'est évident. Hein. Mais là, voilà, le diacre, c'est l'Église. C'est l'Église, à travers lui. Bon, j'ai dit ça parce que Claude n'était pas là. Alors, je vais terminer. Serge Diacre. Comment a-t-il vécu ce ministère ? Comment a-t-il été perçu ? La mission qui lui est confiée lors de l'ordination, la présence et le service des ouvriers en monde rural. Quittant l'usine en 90, le diocèse va l'embaucher à plein temps pour cette mission, jusqu'à sa retraite professionnelle en 93, où là, après, il l'exercera bénévolement. Et il me succédera, il recevra la responsabilité du comité diocésain du diaconat en 93, et Paul Royer en sera l'accompagnateur en 95. Diacre, Serge va garder le souci de la promotion des autres, même si c'est difficile. Il le fait d'abord en cherchant à écouter, à comprendre et à respecter. Je le cite là. Si demain je suis ordonné diacre du Christ, je souhaite que le chemin parcouru se continue, pas aplani pour toujours, mais tel que doit être ma vie d'homme et de chrétien, au service des ouvriers mes frères, dans leurs conditions de travail, de famille, dans tout ce qui fait leur vie. Mais surtout au service de l'Église qui fait qu'il doit être possible de communiquer et de se comprendre entre personnes différentes et parfois même opposées. Faire que dans ma vie de tous les jours, je puisse montrer le visage du Christ par ma façon de faire et de dire. Beaucoup de témoignages, enfin, tous les témoignages seront en sa faveur, même de personnes qui lui ont été opposées pour des raisons syndicales. Et puis Serge écrit un petit peu plus loin. Je pense que pendant un bon moment, nous étions devenus, alors il fait sa réflexion à partir un peu du CMRO. Nous étions devenus un peu sectaires. Nous voyions d'abord les ouvriers et puis les autres. Les activités du mouvement y ont été, je crois, pour quelque chose. Nous construisions l'Église, mais il a fallu nous rendre compte que l'Église est universelle et que si chacun construit sa petite part, c'est tous ensemble que nous sommes l'Église. Dans les derniers temps de ma présence à l'équipe nationale CMRO et par la suite, j'ai fréquenté davantage la paroisse afin de mieux comprendre et de mieux découvrir tout ce qui faisait la vie de l'Église au jour le jour. Ce que je sais maintenant, c'est qu'il n'y a qu'une seule Église, l'Église du Christ, et cette Église vit à la paroisse, dans les mouvements, les associations, à chaque fois que nous acceptons de faire quelque chose pour les hommes, pour Dieu. Chaque fois que nous acceptons de faire quelque chose pour les hommes, pour Dieu, j'ajoute les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur croyance. Voilà ce que Serge perçoit, non pas tant faire, mais permettre à l'autre de faire, de grandir. Une présence discrète et qui porte du fruit. Je cite deux exemples. Au vers de l'amitié qui a suivi l'ordination, ses collègues de travail étaient rassemblés. Ils se sont tous retrouvés. L'un d'eux faisait partie d'ailleurs de l'équipe d'accompagnement. Je ne sais plus comment je les ai abordés. J'ai dû leur dire, probablement, vous n'avez pas trouvé ça trop long, parce que ils n'allaient pas à l'église. Mais je me souviens de la réflexion de l'un d'entre eux et je ne l'ai jamais oublié. Ça fait du bien de savoir que l'église s'intéresse à nous. Ça fait du bien de savoir que l'Église s'intéresse à nous. On passait de la méfiance à la confiance. Autre fait, les agriculteurs fêtant Saint-Éloi, une année, ont demandé à Serge de faire l'homélie. Le syndicaliste d'hier devenait celui qui aide à accueillir, à comprendre la parole de Dieu pour aujourd'hui, parce qu'il est le ministre de l'Église. Il appartient à tous. On peut évoquer comme lieu de présence et de témoignage toutes les préparations et célébrations de mariage, de baptême, de jeunes familles souvent s'éloignées de l'Église et qui, avec Serge, se sentaient plus à l'aise. René me disait « La grâce du diaconat pour le secteur, elle se vit encore. » Et je termine. Lorsque Serge nous quittera brutalement, le 5 février 1996, la peine sera grande pour René, ses enfants, toute sa famille. Sa mort sera aussi une interrogation pour beaucoup, un peu aux marges de l'Église. Ça fait du bien de savoir que l'Église s'intéresse à nous. Qui va continuer? Serge a semé, et la semence a donné des fruits. Dans notre diocèse, malgré l'apparente indifférence de la plupart, il y a certainement encore beaucoup d'hommes et de femmes qui seraient heureux que l'Église s'intéresse à eux. On le voit avec les catéchumènes. Le chantier reste largement ouvert et il y a de la place pour tous. Que toutes celles et ceux qui se veulent disciples du Christ ne l'oublient pas. Que dans la lumière de Dieu, Robert Paul, Serge, Robert Leroy qui nous a quittés au mois d'octobre, ces trois diacres intercèdent pour que d'autres continuent à laver les pieds de leurs frères, à l'exemple du Christ, serviteur du Père pour tous et de tous. Merci de m'avoir accueilli.
Merci Henri pour cet exposé. Je ne suis pas capable de résumer ce qu'il a dit. Ce qui m'a frappé, c'est comment Serge a vécu au cours de sa vie un catéchuménat, d'une certaine façon. Peu à peu, il s'est rapproché de Dieu et voilà, à travers d'une série d'étapes qui lui sont propres. Et puis comment il a eu à cœur de ce catéchuménat de le faire vivre à d'autres, quoi, et notamment à ceux qu'il sentait loin de l'Église, parce que l'Église en était loin et ne s'intéressait pas suffisamment à eux. Et donc combien il s'est efforcé d'être proche de tous. On a vu aussi au travers de l'exposé d'Henri comment le diaconat dans sa restauration, bien sûr on peut toujours penser qu'il est dû au manque de prêtres, je pense qu'il... Il tient surtout compte de ce qu'est la situation de l'Église dans la société actuelle. C'est-à-dire une Église qui doit être en état de mission et qui, dans sa mission, doit comporter une part aussi importante que celle de l'annonce, que celle du célébré, et qui est le service. Une Église qui veut être au service. Et je pense que la restauration du diaconat, pour moi, elle est le signe d'une église qui se veut diaconale, hein, et dont les diacres sont les principaux serviteurs. Ils sont choisis pour ça à l'intérieur de l'église, pour être ceux qui aident leurs frères à être au service de ce monde et à être proches de ce monde. Voilà, merci Henri. Et puis, bien, on va aller prier que le Seigneur nous donne sa grâce pour être proche de ce monde dans lequel nous vivons.